Et nous accueillons ce matin la coordonnatrice de projet à l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, Mme Simone Pinchot-Boulet, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, Mme Pinchot.
Bonjour.
Quel est l'aperçu un peu du sujet en une phrase qu'on voulait jaser de aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, avec le beau temps qui s'en vient, je veux juste poursuivre le sujet qui a été abordé à la dernière chronique en parlant un peu d'agriculture durable.
Mm-hmm.
Donc, en premier, je vais juste faire un petit résumé là pour qu'on soit sur la même page de la dernière chronique du mois passé. Là, vous n'étiez pas là, M. Maillé, donc avec les auditeurs, là, je vais juste faire un petit résumé.
Allez-y.
C'est ça, j'avais abordé la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en 2017 qui oblige à payer une compensation financière si on détruit un milieu humide ou un milieu hydrique. Ces compensations-là sont réinvesties pour créer ou restaurer des nouveaux milieux. Donc, le but de la loi, c'est vraiment d'avoir aucune perte de milieu humide ou hydrique au Québec, parce que on sait là, ces milieux-là apportent des services essentiels à la population, dont la protection contre les inondations, là, qu'on a beaucoup parlé malheureusement avec les événements 2017 aussi en 2019.
Mm-hmm.
Par contre, avec cette loi-là, là, ça fait pas juste des heureux. Là. Je pense ici aux agriculteurs qui, on comprend, ont besoin d'une grande superficie pour faire leur culture. Puis un problème qu'on observe, c'est qu'avec une agriculture plus conventionnelle, on remarque un épuisement peu à peu des sols qu'on cultive. Pour pallier au problème, il y a différentes techniques, par exemple mettre les terres en jachère, mais aussi il y a plusieurs agriculteurs qui gardaient en réserve des milieux humides qui comptaient défricher pour cultiver. Par contre, avec la nouvelle réglementation, c'est plus vraiment possible parce que les compensations demandées sont tellement élevées que ça vaut pas vraiment la peine là, de défricher pour cultiver. Là, on parle de plusieurs millions de dollars. Donc, d'un côté, le gouvernement dit on veut aucune perte de milieu humide à raison. Puis de l'autre côté, les agriculteurs disent ben si on veut, par exemple, des légumes du Québec au Québec, il faut avoir accès à des terres fertiles. Pour y avoir accès, il faut parfois détruire des milieux humides. Je sais pas pour vous, M. Maillé, mais moi, je vois un petit problème là-dedans.
Bien, c'est parce qu'à un moment donné, on peut créer des terres, mais on peut créer des terres, justement, les défrichant, mais on peut pas en inventer en agrandissant la planète Terre. Là. C'est ça qui arrive.
C'est ça, si on détruit des milieux humides qui ont mis des milliers d'années à se créer pour continuer une agriculture qui appauvrit le sol, bien, on n'est pas plus avancé, là. Les experts s'entendent pour dire que si on fait rien dans le sud du Québec, c'est la belle terre noire là, qu'on a aussi au Témiscamingue, super fertile, ben pourrait disparaître d'ici 50 ans. Ça sera sûrement un peu plus tard au Témiscamingue, là, où il y a moins d'utilisation qui se fait ici. Mais en sachant tout ça, est-ce qu'on ne devrait pas voir plus loin, revoir la façon de faire de l'agriculture au Québec, d'encourager une agriculture plus durable, voire bénéfique pour l'environnement? Je me pose la question, puis je voulais vous en parler là, de ce type d'agriculture-là aujourd'hui.
Ben justement, à quoi pourrait ressembler une agriculture bonne pour l'environnement?
Oui. Avant toute chose, je veux juste qu'on regarde l'impact de l'agriculture conventionnelle. Donc, c'est quoi l'agriculture conventionnelle? C'est la production en monoculture. Donc, un étendu d'une seule culture, par exemple, un grand champ de laitue ou de carottes ou de patates. C'est des grandes cultures sur des super grandes superficies. Pour être rentable, on a besoin de beaucoup d'équipements motorisés, des gros tracteurs, par exemple. Aussi, on a besoin d'engrais, d'herbicides, d'insecticides, de fongicides. Ces produits chimiques-là vont être lessivés en partie dans nos cours d'eau, vont amener leur lot de problèmes, dont la prolifération d'algues, aussi le vieillissement accéléré des cours d'eau, là, qu'on appelle l'eutrophisation. Puis comme les marges de profit par hectare là, de ce type d'agriculture-là sont plutôt petites, bien, pour que ce type d'agriculture-là soit rentable, bien, les agriculteurs vont vraiment maximiser leur étendue de terre. Puis ça peut aller au détriment des bandes riveraines, là, des bandes végétales sur le bord des cours d'eau de leurs champs. Puis ça amène son lot de problèmes, là, d'érosion des sols, puis aussi de sédiments qui vont aller dans les cours d'eau. Encore là, comme c'est des grandes étendues de la même chose, ben ça amène peu de diversité biologique sur sur l'étendue cultivée. Donc, c'est pas des terres intéressantes, par exemple, pour nos pollinisateurs, en plus avec les produits chimiques, puis aussi pour tout autre type d'animaux, de végétaux sur le territoire. Donc, très peu de biodiversité, oui, sur ces terres-là.
Donc, on en vient à quoi pourrait ressembler une agriculture bonne pour l'environnement?
Ben oui, je parle ici du modèle d'agriculture intensive ou bio-intensive, si on est dans le bio, là, où on se concentre plus sur des petites surfaces de culture diversifiées où on intensifie au maximum la production. Donc, l'idée, vraiment, ici, là, c'est de faire mieux sur plus petit, oui, plutôt que toujours plus gros, là. Donc, comment on procède pour faire ça? Ben, en étant plus efficace, en ayant des plus petits équipements, des équipements manuels, donc en diminuant les frais fixes, là, parce qu'on n'a pas à entretenir de la grosse machinerie. Ça représente beaucoup d'argent, là, cet entretien-là. Puis aussi, comme on n'utilise pas de tracteur, ben la disposition des plantes peut être plutôt plus densifiée. Parce qu'on n'est pas soumis aux dimensions du tracteur. Là. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, je comprends bien.
Puis ce modèle-là, se rapprocher plus de la nature pour maximiser la production. Par exemple, on utilise des pollinisateurs, on va utiliser les milieux humides, des engrais verts, puis aussi on va favoriser l'interaction entre les végétaux pour favoriser leur croissance. Puis avec ces techniques-là, on peut diminuer l'apport en engrais, en herbicides, puis donc diminuer les coûts de production.
J'imagine l'effet que ça a sur l'environnement aussi, là.
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, comme on est sur des plus petites surfaces, il y a moins de pertes des milieux naturels. Puis comme on utilise moins d'engrais, il y a moins de lessivage de ces produits-là dans nos cours d'eau. Aussi, comme c'est une agriculture qui laisse plus de place à la diversité biologique, à l'inclusion des végétaux qui ne vont pas nécessairement servir à la production, par exemple, un champ fleuri pour attirer les pollinisateurs, bien, ça peut diminuer les problèmes d'érosion. Ça peut avoir aussi un effet positif sur la biodiversité du territoire.
Donc, comment on fait le changement, si c'est possible?
Bien, tu sais, je suis consciente que les agriculteurs conventionnels ne vont pas faire de l'agriculture diversifiée du jour au lendemain. Là. C'est des façons de faire totalement différentes. C'est une expertise totalement différente. Mais reste qu'on observe un mouvement là, vers une petite agriculture plus soucieuse de l'environnement. Initiée, entre autres, par Jean-Martin Fortier, je ne sais pas si vous connaissez, là, avec son livre « Le jardinier maraîcher ». Et bref, on doit y répondre à ce moment-là. Moi, personnellement, je pense que les citoyens sont déjà au rendez-vous là pour ce type d'agriculture-là. On le voit l'été dans les marchés. Par contre, on doit mettre en place un système qui favorise l'implantation des petites fermes super productives, diversifiées partout sur le territoire. Parce que pour l'instant, le système qui est en place encourage plutôt les fermes à devenir de plus en plus grosses, puis le système peut mettre des bâtons dans les roues des petites fermes diversifiées.
Donc, est-ce qu'on a, en terminant, des suggestions pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là?
Oui, absolument. C'est un sujet assez complexe, là, puis il y a un super documentaire qui a été fait qui s'appelle « La ferme et son état », fait en 2017 par le peintre Marc Séguin, que vous connaissez peut-être. C'est sur le site, gratuitement, là, sur le site de UniTV. Puis, tant qu'à faire, là, il y a aussi la série Les fermiers qui est disponible sur ce site-là. Donc, La ferme et son état et Les fermiers sur le site d'UniTV. Puis, en terminant, je tiens juste à saluer, là, sincèrement les agriculteurs de la région. J'espère que la saison va être super bonne pour vous.
Bien, on vous le souhaite à vous aussi, Mme Pinchot. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
Bien, merci. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Mme Simone Pinchot-Boulet, coordonnatrice de projet à l'organisme de bassin versant du Témiscamingue.